Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Libre Propos, l'émission de Radio Grand Ciel hebdomadaire qui vous permet d'entendre la parole de notre évêque sur des sujets de société. Il y a un menu qui est assez copieux aujourd'hui. Bonjour Monseigneur.
Eh bien, je prends le grand menu. Bonjour à tous, bonjour bien.
Alors, il va y avoir, je pense, deux entrées. Mais tout d'abord, la réforme des retraites. Alors là, vous venez de me dire juste avant l'émission, la retraite à 75 ans comme pour les prêtres et les évêques. Donc, je viens d'apprendre que...
Notre retraite est effectivement à 75 ans, en espérant que la vie nous offre quelques années de plus pour faire d'autres choses, se détendre un peu, être peut-être un prêtre, auxiliaire dans une paroisse pour aider les gens, très simplement. Mais c'est un privilège.
Alors la réforme des retraites, on s'achemine vers une retraite à 64 ans, donc 2 ans de plus. Qu'est-ce que vous en pensez? On voit que les sondages montrent que les Français ne sont pas trop d'accord. Ils ont l'impression que c'est une réforme un peu injuste. En même temps, ils ont l'air un peu résignés aussi. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça?
Il faudrait parler longtemps. Je ne sais pas quelle est la question profonde. D'abord, on sait que les gens vivent plus longtemps qu'il y a 50 ou 60 ans. Donc, il faut quand même assumer le poids des finances pour accompagner les retraités. Donc, travailler plus longtemps me semble un peu logique. Pardon, j'ai un peu une voix qui chante ce matin, mais je vais essayer de parler correctement. Et moi, je peux comprendre que des personnes qui ont un travail qui est réellement pénible, j'ai visité dans mon histoire lointaine des usines, par exemple, métallurgiques à Sheffield en Angleterre, c'était des conditions de travail très dures, c'est très différent que dans un bureau... Ou maintenant conduire un train, on est installé, on est voilà. Donc c'est le temps de travail n'est pas un temps de galère en principe. C'est un temps d'épanouissement. C'est un temps où j'espère les gens trouvent du bonheur à apporter des talents. Alors est-ce que 43 ans de travail c'est trop? En tout cas, c'est qu'une partie de la vie. C'est la moitié du temps de la vie. Donc il faut financer le reste. Après là, on veut augmenter de au fond de 2 ans, j'ai compris ça, mais encore dans une durée qui est lointaine. Donc, est-ce que 2 ans de plus de travail, c'est trop demandé aux gens pour qu'il y ait un équilibre financier? Alors, après, il y a la question aussi de tous les avantages acquis dans certaines professions, certains métiers. Il y a, je pense, des formes d'injustice parce que ceux qui en bénéficient forcément veulent garder leurs avantages acquis. Mais je pense qu'ils ne sont pas forcément plus maltraités que d'autres qui n'ont pas ces avantages-là. Donc, remettre à plat les choses, ça me semblerait du bon sens. Après, je ne suis pas le gouvernement, j'ai d'autres chats à fouetter que ça. Donc, voilà, j'espère qu'il y aura un véritable dialogue et non pas un blocage par principe avant toute forme de dialogue.
Est-ce que le véritable problème n'est pas que, en fait, et on en parle peu, qu'un tiers des personnes arrivent à l'âge de la retraite au chômage? Le chômage des seniors est extrêmement important en France, donc c'est peut-être ça le problème aussi.
C'est vrai que moi qui ai 65 ans bientôt, je ne suis pas un jeune, je suis plutôt un senior, mais j'ai encore de l'énergie sous la pédale et des talents à partager. Je pense que les seniors ont acquis de belles expériences de vie et de travail, les données pour la société, les données peut-être par du bénévolat aussi, hein, mais il n'y a pas de raison qu'on dise à un senior de partir parce qu'il coûte plus qu'un jeune qui sort d'école. Donc oui, il faut respecter les seniors.
Ouais. Deuxième sujet, c'est un peu triste, un peu sinistre, mais on commence à s'y habituer, hélas. Une agression suivie d'un enlèvement, filmée en plein jour près de l'église d'une petite commune de Seine-et-Marne. Des gens passaient. Ils n'ont pas régi, on les comprend, parce que cet enlèvement était...
Il y avait un fusil à pompe, hein, donc pas rien. À la fois, on s'habitue parce que c'est régulièrement dans les news, mais on ne doit jamais s'habituer à cette crapulerie, à ce banditisme. Mais on sait qu'il y a un secteur de banditisme en France. On sait qu'il y a des réseaux de criminels et de bandits qui prospèrent grâce au marché parallèle de drogue, de cigarettes, de médicaments aussi. Maintenant aussi, le consommateur de drogue, il est coupable. Hein. Oui. Donc, pas de marché, pas de circuit, pas de gang. Donc, tous ceux qui prennent des joints, qui fument, qui prennent de l'héroïne, qui prennent de la coke, qui sont à rail, sont coupables de tout ça. Donc, je pense qu'il faut aussi que les gens se rendent compte que la société doit vivre avec d'autres valeurs, mais que chacun a sa part de responsabilité dans cette gabegie, parce que c'est vraiment une gabegie. Et puis pour les gens, c'est tellement déstabilisant, cette violence, comme cet homme qui a frappé Gare du Nord,
oui, c'est ce que je
quelques
aussi,
personnes.
Cette question.
En France, un pays de paix, on devrait être en droit de prendre le train sans s'inquiéter. Enfin, moi, je ne m'inquiète pas personnellement, j'avoue que j'ai ça dans mon cœur, que je suis assez éloigné de cette crainte, mais des gens sont vraiment inquiets, donc il faut que ça change.
Ouais. Un jeune homme de 20 ans, libyen, qui était lui aussi sous le coup d'une OQTF, qui n'a pas été suivi des faits, et voilà, bref. Sur le plan local, et là on va se réjouir, institutions comme Lecteur et Acolyte d'Éric Jornès étaient cette semaine. Alors c'est quoi un acolyte ?
Alors donc Éric est un homme marié à Florence. Ils habitent sur Chartres et ils ont fait ce chemin pour que Éric devienne un jour, si Dieu le veut, diacre permanent. Donc un homme au service de la liturgie, de la parole de Dieu, des tables comme on dit, des autres. On a fait une étape à la messe d'un soir à la cathédrale de Chartres, où on a accueilli sa demande, son engagement. Il a été institué lecteur, donc c'est une mission de proclamation de la parole de Dieu, de l'explication, de la commenter. Et puis, il a été institué aussi acolyte, c'est-à-dire qu'il va s'associer au travail des diacres, du prêtre, pour à la fois préparer l'autel, accompagner le prêtre qui célèbre, et aussi porter le précieux corps de Jésus aux fidèles. Donc, très heureux d'accueillir Éric. Et il y aura d'autres hommes prochainement qui feront la même démarche. Et puis, dans l'avenir, j'espère que des hommes mariés qui ont un vrai sens de l'Église, une vie de prière, qui ont le goût du service, pourront être accompagnés vers ce beau ministère.
Ouais. Les 14 et 15 janvier prochains à Notre-Dame de Montlignon, un week-end couple missionnaire, c'est vous qui dirigerez cette mini-retraite, on va dire.
Ah, moi, je ne dirige pas, parce que j'espère que c'est l'Esprit Saint qui dirige toutes choses. Et puis, il y a une équipe. Vous savez, moi, l'équipe fait le projet. Donc, l'équipe, c'est d'abord Marie et Basile Odara, qui sont mes délégués pour la mission Couple et Famille, qui sont d'un couple très engagé, membre du Chemin Neuf, et qui ont préparé ça avec d'autres couples. L'idée de ce premier week-end de l'année 2023, c'est de nous retrouver entre fidèles, donc des couples qui veulent vraiment s'engager pour la mission à travers d'autres activités destinées aux familles, préparation au mariage, fête des familles, marche, session, etc. Et donc on va plutôt approfondir cette vocation du baptisé, marié, dans cette dimension missionnaire et son engagement. On aura aussi une vingtaine d'enfants qui vont être là, mais grâce à Dieu, on a aussi des jeunes guides, scouts, qui vont nous aider à faire un très beau programme pour les enfants.
Alors, s'engager en couple dans l'Église, ça peut passer par quel type de démarche, finalement ?
Ben d'abord, un couple a comme vocation de vivre sa vie de couple. Hein. Il ne faut surtout pas que l'engagement que des gens mariés prennent fasse de l'ombrage à leur disponibilité l'un pour l'autre et pour leurs enfants. C'est leur priorité absolue. Après ça, on aime faire des équipes. C'est-à-dire que quand on fait, par exemple, une journée pour les jeunes familles, on aura au mois de mai, je crois, une journée sur la sexualité qui est ouverte à tous les couples qui veulent s'y intéresser. Il nous faut une équipe de gens qui accueillent, qui vont enseigner, qui vont écouter, qui vont accompagner. Et donc, c'est ce type d'engagement que ces couples font.
Voilà. Si on souhaite de plus en plus de renseignements sur ce week-end, je rappelle que c'est le 14-15 janvier à Notre-Dame de Montlignon, qui est un sanctuaire, hein, le sanctuaire Notre-Dame de Montlignon. On peut appeler donc au 02 37 88 00 14. Et puis pour terminer, j'aurais aimé faire un petit retour sur votre dernier message fraternel qui revient lui-même sur l'épiphanie. Alors, on n'a pas eu le temps d'en parler la semaine dernière de l'épiphanie. C'est une fête assez finalement assez importante, en tout cas significative. Mais tout d'abord, vous avez reparlé évidemment de Benoît XVI avec une petite anecdote qui
peut-être était celle des Journées mondiales de la jeunesse, c'est ouais. Ça à Madrid. D'ailleurs, beaucoup de gens en ont parlé dans les médias. C'était une grande soirée à Madrid. Nous étions 1 million de personnes, des jeunes. Et puis, une tempête s'est levée, mais une tempête vraiment étonnante, en quelques minutes, qui a balayé les tentes, les lampadaires, le matériel. Il a fallu qu'on se protège vraiment de ce vent impressionnant. La sécurité disait au pape, et je l'ai su par un ami prêtre qui était à côté de lui, la sécurité lui disait de partir, ça devait même dangereux. Il a dit non, je ne bougerai pas. Et on a eu ce temps d'adoration eucharistique, donc on était en prière en silence. Et il n'a pas bougé, sa calotte était partie au vent, il était tout ébouriffé. Et pourtant, d'un seul coup, il se fit un grand calme en quelques minutes. Et on était 1 million dans le silence le plus complet à contempler la présence de Jésus dans l'Eucharistie, mais aussi à voir ce pape humble prosterné en prière, silencieux. Et c'est un souvenir qui est marquant pour tout le monde.
Ouais. L'épiphanie, donc une au-delà évidemment de la traditionnelle galette frangipane, cette fête, dites-vous, finalement, eh bien, c'est la manifestation de Dieu en Jésus-Christ qui est faite aux nations païennes qui sont représentées par les mages.
Le mot épiphanie veut dire manifestation, et les mages que l'on voit venir vers Jésus de l'Orient, en fait, apportent des présents, mais ils sont de pays étrangers, ils arrivent de l'Orient, donc peut-être de Perse ou de Mésopotamie. Et pour l'Église, cet événement est vu comme la première manifestation de la présence de Jésus, Fils de Dieu, aux nations du monde entier. Et donc, notre foi, notre religion donne un message d'universalité. Tous les peuples sont invités à adorer Dieu dans la présence de Jésus et à le suivre, à suivre ses enseignements, son évangile merveilleux. Et donc on est tous invités aujourd'hui, au XXIe siècle, et bien aussi à nous tourner vers Jésus, ne pas avoir peur de lui. Hein. Benoît XVI disait, n'ayez pas peur, Jésus ne prend rien, il donne tout.
C'est très beau ça.
Oui, c'est très, très simple et c'est tellement vrai. En s'approchant de lui, on reçoit la vie et on peut tous l'accueillir, qui qu'on soit.
Oui. Et alors vous dites, l'homme contemporain trouvera-t-il un guide pour rencontrer le visage de Jésus ? Et n'est-ce pas par nous qui portons la lumière de la résurrection depuis notre baptême ? Mais gare, dites-vous, à la tiédeur des chrétiens contemporains.
Ben, les mages ont eu besoin d'une étoile originale qui les a guidés jusqu'à Bethléem. Aujourd'hui, comme je dis, le ciel est plutôt pollué par la lumière, donc on ne voit pas beaucoup les étoiles. Mais chacun de nous, par l'amour qu'il porte à Dieu et aux autres, peut être une étoile pour quelqu'un d'autre, et par sa présence, par sa parole, le guider vers Jésus. Mais effectivement, faut-il encore que les chrétiens qui ont reçu cette grâce particulière de connaître Jésus ne soient pas tièdes, car la tiédeur se confond avec le brouillard, l'obscurité, et on ne voit plus la lumière. Il nous faut des croyants réveillés, lumineux par leur amour, par leur partage, et je l'espère que nous le serons tous, ouais. Y compris moi.
Vous en appelez d'ailleurs aux enseignants catholiques, vous dites qu'ils sont abstenus pendant des années de parler de Jésus, il faut le faire. Et les politiques ont mis leur foi dans leur poche au nom de la laïcité, dites-vous.
Oui, dans nos écoles catholiques, je vois bien qu'on veut faire des efforts, mais souvent les directeurs, directrices me disent « moi j'aimerais bien, mais je ne sais pas comment faire » et nos professeurs ne sont pas choisis par nous souvent. Donc ils sont là avec une bonne volonté, mais parler de Jésus au quotidien, animer une prière chaque jour... lire un évangile pour instruire un peu ses élèves, ça se fait quasiment pas, ou si peu, ou trop peu. Et moi, je vois des jeunes qui ont 12, 13, 14 ans, même pour des confirmations que je rencontre, que j'écoute, mais dont les connaissances sont vraiment au ras des pâquerettes. Donc, il y a un effort à faire, il y a un désir à avoir. Je pense qu'il faut qu'on ait ce désir, parce que ce message de paix, de joie, d'amour du Christ est vraiment magnifique, quoi. Mais trop peu le connaissent. Nous devons nous y engager aussi dans nos écoles catholiques qui sont ouvertes à tous, à toutes les religions, à toute personne. Mais nous sommes catholiques et nous sommes là aussi pour révéler ce merveilleux message de l'Évangile.
Au boulot donc.
Au boulot.
Merci Monseigneur. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qu'ils pourront réécouter cette émission sur le site de Radio Ranciel, donc www.radioranciel.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Libre Propos.